Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à présenter votre défense. Oups. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir présenter votre défense pour un bien que vous avez fait ou un mal que vous n'avez pas fait? Je recommence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir présenter votre défense pour un bien que vous avez fait ou un mal que vous n'avez pas fait? Apparemment, oui. Il y a un exemple qui m'est venu quand je préparais cette prédication. Je pensais aux jeunes, je pensais aussi quand moi j'ai été jeune. Mais en fait, c'est pour tous les jours, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Quand j'étais jeune, j'ai fait des choix. Par exemple, le choix de garder mon corps jusqu'à mon mariage. Et c'était pas forcément évident. Parce que si pour moi c'était clair de ce que je voulais et pourquoi je le voulais, pourquoi? Je comprenais même pas tout, mais j'avais une conviction que c'était comme ça, que c'était juste. Eh bien, tout mon entourage à l'école ou les amis, etc., ne vivaient pas la même chose et ne le comprenaient pas. Donc, c'est comme si, quelque part, j'avais presque de la honte. C'est comme s'il fallait se justifier. Ouais, mais t'es ringard. Ouais, mais c'est archaïque. Comment est-ce qu'on se défend quand on nous demande des comptes sur quelque chose de bien? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de se justifier? Oh, ben, c'est mon choix. Oh, ben, c'est la Bible qui le dit. Ah ouais, où ça? Comment est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on doit le faire? Soyez toujours prêt à présenter votre défense. Si vous refusez de tricher aux impôts, si vous refusez de faire quelque chose de mal, alors que tout le monde le fait, soyez prêt à présenter votre défense. Pierre, l'apôtre Pierre, il a appris très vite à présenter sa défense. Et il n'a pas suivi d'école, il n'a pas été préparé. Pierre, il était pêcheur. Il pêchait des poissons. Il n'a pas fait d'école rabbinique. Mais tout à coup, il a dû présenter sa défense. Sans faire appel à un avocat, sans aide. Tout à coup, il s'est trouvé dans cette situation-là. Alors, pour un petit peu raccrocher les wagons, souvenez-vous, il y a quelques semaines, je ne sais plus, ou deux semaines, on a parlé de Acte 3, de Pierre et Jean qui montent au temple. C'est juste après la Pentecôte. Ils montent au temple et sur leur chemin, à la belle porte, il y a un boiteux qui leur demande l'aumône et Pierre le regarde et lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Le boiteux se lève, il est guéri, il loue Dieu, il entre dans le temple avec les apôtres. Et tout le peuple qui est là, dans l'enceinte du temple, le voit. Tous se posent des questions, tous se mettent à louer Dieu, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Pierre prend la parole. Et Pierre fait un discours ou une prédication. C'est la première prédication qu'il fait devant le peuple. Il a déjà fait un premier discours à la Pentecôte pour expliquer ce qui se passait. Mais là, il était avec les 120, il était avec ceux qui cherchaient activement le Seigneur, ceux qui priaient, qui étaient en prière et qui attendaient ce qui devait arriver. Mais là, il est dans l'enceinte du temple. Et dans l'enceinte du temple, il y a aussi des religieux, il y a des gens qui sont là par habitude, par devoir, par obligation. Et il se met à expliquer ce qui s'est passé. Et pour expliquer ce qui s'est passé, il se base sur la parole, sur les Écritures et donc sur l'Ancien Testament. Et il explique qui était Jésus et comment ce boiteux a été guéri. Et au centre de sa prédication ou de son discours, au verset 16 de Acte 3, il dit « C'est par la foi en son nom, donc le nom de Jésus, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Pierre est en train de faire appel au nom de Jésus. Il a dit au boiteux, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et maintenant, il explique, c'est en son nom qu'il a été guéri. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est le nom de Jésus qui est élevé, qui agit encore, et c'est dans sa sphère de juridiction. J'ai fait appel à la sphère de juridiction de Jésus qui a reçu tout pouvoir, et c'est comme ça que ce boiteux a été guéri. Voilà ce que Pierre est en train d'expliquer, en plus d'expliquer qui est Jésus. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Je suis dans la suite, acte 4. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Pierre et Jean, ils ont fait cette guérison à 3 heures de l'après-midi. Et c'est le soir que les autorités juives rappliquent. Parce que ça a commencé à faire du bruit, toute cette histoire. 5 000 personnes qui se sont converties. Ils rappliquent et ça les insupporte. Il y a quelque chose qui les exaspère et ils jettent les apôtres en prison. Qu'est-ce qui les exaspère? Ils sont mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. On est dans une tradition orale et on est au temple. C'est un peu comme à la synagogue, c'était normal de donner des enseignements. Mais les apôtres n'étaient pas des rabbins. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, ils annonçaient la résurrection. Et là, on a beaucoup de sadducéens. Et les sadducéens, c'est l'aristocratie, c'est la noblesse, c'est un parti politique, c'est une secte, c'est un peu tout ça. Et c'est des gens très influents qui ne croyaient pas en la résurrection et qui ne voulaient pas y croire. Pourtant, il y a eu des résurrections déjà dans les Écritures, déjà dans l'Ancien Testament. Mais ils étaient opposés à ça, leur cœur était endurci. Et en plus de ça, ce qui était juste insupportable, c'est que c'était dans le nom de Jésus que cette résurrection était annoncée. Ce Jésus qu'ils ne supportaient pas parce qu'il les confrontait dans leur propre cœur, ce Jésus qu'ils ont fait crucifier. C'était insupportable. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé les apôtres et en prison. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Comprenez bien que Pierre et Jean sont en très 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 mauvaise posture. Parce que là, ces gens, je ne sais pas si vous avez repéré les noms, Anne, Caïphe, ça vous dit quelque chose? C'est ceux qui ont crucifié Jésus. C'est les mêmes personnes. Et c'est le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'est le tribunal des Juifs. Le Sanhédrin, c'est des pharisiens, c'est des sadducéens, c'est les huiles, c'est les autorités juives qui, en fait, on est dans l'occupation romaine, mais de la part de l'empereur romain, ils ont reçu l'autorité légale de juger des affaires civiles, pénales et spirituelles du peuple juif. Et là, Pierre et Jean, ils sont au Sanhédrin, donc en fait, ils sont au tribunal. Ce même tribunal qui a fauté, qui était tellement tordu, qui a magouillé et qui a envoyé Jésus à Pilate. Pourquoi à Pilate ? Parce que la limite de l'autorité juive, c'est le pouvoir de vie et de mort. Il pouvait mettre quelqu'un en prison, mais s'il voulait le conduire à la mort, il fallait l'apporter au procurateur romain. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Pierre et Jean, ils le savent. Ils étaient là. Ils se retrouvent dans la même situation. Il y a marqué qu'ils les placèrent au milieu d'eux, parce que le Sanhédrin, il se réunissait en demi-cercle. Et il y avait des positions, les étudiants qui étaient à un certain endroit, les disciples des pharisiens qui étaient à un autre endroit. Et il y a toutes des règles. À un moment donné, il doit y avoir des votations, des délibérations, toutes des choses qui n'ont pas eu lieu, par exemple, au procès de Jésus. Donc, on sait que ce procès, ça va être peut-être n'importe quoi. Vraiment, la vie de Pierre et Jean est vraiment en danger. Ces gens sont tordus. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tordus? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir sur le peuple. Ils veulent garder le contrôle. Ils veulent garder le pouvoir. Ils se croient supérieurs. Ils ont un esprit supérieur. Qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de l'orgueil. L'orgueil fait qu'ils sont tordus et qu'ils ne veulent pas le reconnaître et qu'ils sont dangereux. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est dans ce genre de situation? Parfois, on a de l'opposition, on a des accusations qui viennent de l'extérieur. Ça peut même être des gens de l'Église qui nous demandent des comptes. Ça peut être des gens au travail qui nous demandent des comptes, des gens de notre propre famille qui nous demandent des comptes. Ça peut être n'importe où. C'est une opposition externe. Et parfois, on a une opposition à l'intérieur de nous. C'est l'ennemi de notre âme, notre propre orgueil, notre propre besoin de contrôle, de tout maîtriser, ou plein d'autres choses. On est tous, on sait tous où on en est, où on peut demander au Saint-Esprit qu'il nous dise, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Alors, comment est-ce qu'on fait quand on se trouve comme ça à un tribunal, quelque chose qui nous accuse? Le Sanhédrin demande à Pierre et Jean, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et quelques lignes avant, on entend que c'est à cause du nom de Jésus qu'ils les ont arrêtés. Donc, ils connaissent la réponse. Donc, s'ils posent cette question, c'est pas pour recevoir une information. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver la faille. Comment est-ce qu'on va les affaiblir pour les faire taire? Parce qu'il faut que ça cesse, cette histoire. Il faut qu'on arrête de prêcher Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils veulent. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre n'a pas fait d'école pour apprendre à défendre la foi ou quoi que ce soit. Mais vous avez vu comme il met de la finesse dans ce qu'il dit. Premièrement, Pierre, il est rempli du Saint-Esprit. Il est tellement rempli que son intelligence est renouvelée. Il n'a pas peur parce qu'il sait qui est son Seigneur. Parce que Pierre, quelque part, il est versé dans les Écritures, même si c'est pas, entre guillemets, sa profession. Certainement que depuis l'âge de 12 ans, tous les sabbats, il allait à la synagogue. Il entendait la parole. Il l'entendait. Il la méditait. Il la savait. Et quand il fallait l'utiliser, elle revenait à son esprit. Et là, la Pentecôte vient de se passer. Il est rempli du Saint-Esprit. Son intelligence est renouvelée. Et qu'est-ce qu'il dit? Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Il dit même pas, puisque vous nous accusez. Il dit, puisque nous sommes accusés d'un bienfait. De façon très subtile, il est en train de dire à ses accusateurs, ce que vous êtes en train de faire est complètement illégitime, irraisonné. Vous êtes en train de m'accuser d'avoir guéri ce boiteux. C'est pas un crime. Donc ce tribunal n'a rien à faire là. Il est en train de toucher le cœur des Sadducéens, des pharisiens, du commandement du temple. Il est en train de montrer votre cœur est tordu. Il est en train de dénoncer l'orgueil, le goût du contrôle, toutes ces choses-là, des autorités qui sont devant lui. Et là, quand lui, il a réussi à entrer dans la faille et qu'il les a déstabilisés, il continue. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Parce que puisque eux, ils sont au Sanhédrin, quelque part, c'est comme s'ils étaient devant tout Israël, puisque ces autorités représentent tout Israël. Alors, ils renversent complètement les choses. Eh bien, que tout Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, pas votre juridiction à vous qui tient pas la route parce que vous êtes tordu, mais c'est celle de Jésus-Christ que vous avez crucifié, celui que vous avez refusé, celui qui vous supporte. C'est en son nom que cet homme a été guéri. Cet homme a été guéri par Dieu qui, par son pouvoir, a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vit maintenant, qui agit, et vous avez la preuve à côté de moi. Il est en train de les titiller toujours plus. C'est difficile pour ces gens du Sanhédrin. Parce que s'ils n'arrivent pas à recevoir ces paroles, bien sûr, c'est parce qu'ils ne veulent pas lâcher le contrôle. Mais il y a autre chose. C'est qu'ils ne supportent pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Ils ne supportent pas la vérité. Ils ne veulent pas de vérité dans leur cœur. Ils ne veulent pas prendre le risque d'être changés, d'être transformés. Et Pierre, c'est ça, entre autres, qu'il est en train de viser. Et lui, il rétablit la vérité. Et lui, il annonce la vérité. Et lui, il proclame la vérité. Et il proclame son nom, Jésus-Christ. Mort, crucifié, ressuscité. Mais il ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Pierre dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. » Voilà un verset qu'on a entendu maintes et maintes fois. Jésus a cité ce verset. Mais il est bien plus vieux que le temps de Jésus. Ce verset, on le trouve la première fois dans le psaume 118, au verset 22. Psaume 18, verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette pierre? Une pierre de l'angle, une pierre angulaire, c'est une pierre qui a une forme particulière, d'un angle justement, et à l'époque, dans les constructions, il fallait cette pierre angulaire pour que les murs tiennent ensemble. Une construction qui était faite sans cette pierre ne pouvait pas tenir, elle était fragilisée. Donc, cette pierre, elle est incontournable. Si tu veux une construction solide, il te faut cette pierre. Cette pierre, elle servait aussi quand on faisait un arche ou une arche ou un pont. Il fallait aussi une pierre angulaire qui allait tenir toute la structure. Si tu mets pas cette pierre, ça ne tient pas, ça s'écroule, ça s'effondre. La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Pierre est en train de dire « Jésus, c'est cette pierre ». Bien sûr, nous, on l'a compris, mais il est en train de dire autre chose. Il est en train de dire « La pierre rejetée par vous qui bâtissez, vous qui êtes les autorités d'Israël, c'est comme si c'est vous qui bâtissez le pays, c'est comme si c'est vous qui bâtissez la nation. » Parce que quelque part, puisque c'est vous qui avez les lois, c'est vous qui avez le plan de l'architecte. C'est vous qui montrez la direction. C'est vous qui donnez la ligne. C'est vous qui faites en sorte que le peuple peut avancer, peut prospérer. Mais dans votre plan, il y a une pierre d'angle. Et vous n'en avez pas voulu. Il est en train de les accuser sans en avoir l'air. Mais je vous ai dit que Pierre, il était rempli de la parole. Et pourquoi c'est tellement important? Ce verset, on le trouve dans Ésaïe 28. Il n'est peut-être pas dit exactement la même chose. Mais il ne faut pas oublier que le Sanhédrin, les pharisiens, toutes ces autorités, elles connaissaient la parole. C'est des gens qui avaient fait des écoles rabbiniques. C'est des gens qui étaient versés dans les Écritures. Ils connaissaient le contexte de ce verset. Ce n'était pas un verset isolément pris juste comme ça. Ils savaient ce qu'il y avait écrit avant. Ils savaient ce qu'il y avait écrit après. Je vous lis dans Ésaïe 28 à partir du verset 14. « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. » Vous, qui dominait sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Etc., etc. Imaginez un peu. Pierre y donne juste un verset qui a l'air de rien comme ça. Mais les gens qui reçoivent ce verset, ils connaissent le contexte. Et ils comprennent qu'ils sont accusés de moqueurs. Ils comprennent que leur pacte avec la mort, avec la fausseté, avec le mensonge, il a été dénoncé. Et il est dénoncé devant tout le peuple d'Israël. Est-ce que ce n'est pas une défense, ça? Est-ce que ce n'est pas une défense? Comment vous faites quand on vous demande des comptes? Qu'est-ce que vous avez à disposition pour présenter votre défense? La langue, la parole, ouais. Comment est-ce qu'on manie la parole? C'est pas facile. C'est la même chose quand on va évangéliser. Comment est-ce qu'on s'y prend? Quand on nous demande des comptes sur notre foi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, Pierre, il n'est pas en train de présenter sa propre défense. Il n'est pas en train de défendre sa vie. Il n'est pas en train de se dire, waouh, là, ça sent le roussi. Il faut que je réussisse à dire, ouais, non, mais c'est pas juste. Regardez, il est guéri. Non. Pierre, il est en train de défendre la foi. Il est en train de défendre l'Évangile. En fait, il est en train de prêcher l'Évangile en défendant l'Évangile. Pour que tous ceux qui sont en train de l'écouter aient une possibilité de faire tilt en disant « Je me suis trompé, j'accepte le Seigneur. » Comment vous faites quand vous êtes dans une posture difficile, quand vous avez des pensées qui vous assaillent? Dernièrement, je me faisais beaucoup de soucis pour deux personnes qui me sont proches. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est enregistré. Mais vraiment, je me faisais du souci. Et Ritz m'a dit, aie foi en Dieu. C'est tellement simple. Je me dis, mais je suis pasteur en formation, je suis pasteur et il faut que mon mari me dise, aie foi en Dieu. Et bien sûr que je le sais. Mais moi, à l'intérieur, ça m'a fait comme une détonation. J'ai dit, non, mais c'est peur, mais je ne suis pas d'accord avec. Je suis pas peur, je suis pas d'accord avec ces peurs. Bien sûr, il y a des circonstances qui font que la situation est difficile. Mais moi, comment je vis ça? Comment je mets ma foi en Dieu? Comment j'ai confiance? Comment je vais rester debout? Comment je vais tenir sans m'effondrer, quoi qu'il arrive? Ça, c'était un soir et le lendemain, dans mon temps avec le Seigneur, j'ai utilisé la parole d'une manière tellement spéciale. J'ai utilisé la parole, ça m'a changé, ça a changé ma perspective, ça n'a pas changé les circonstances. Bien que j'ai reçu des bonnes nouvelles qui m'ont encouragée. Mais moi, ça a changé quelque chose à l'intérieur de moi et ça m'a donné encore plus de puissance pour mes prières. Des choses que je sais, des choses même que j'enseigne ici, que Ritz enseigne, rien de neuf sous le soleil. Mais il faut toujours y revenir. Il faut toujours revenir à la parole, parce que dans la parole, il y a tout ce dont on a besoin pour chacune de nos circonstances, pour présenter notre défense à l'ennemi de nos âmes, de se positionner en disant « moi je mets ma foi dans la parole c'est le Seigneur, cette parole elle est vivante, je l'applique à ma vie, je dis aux ennemis de mon âme ce que dit la parole, et les ennemis de mon âme maintenant ils se taisent, ils fichent le camp, Selon quoi? Eh bien, la même chose. Quand tu veux te préserver pour ton futur mari ou ta future épouse, pour vous qui avez des enfants qui sont en âge de, comment vous les aider à présenter leur défense? Eh bien, regardez comment Pierre, il a construit tout son discours. Il n'a pas commencé à se justifier. Il n'a pas commencé à dire, eh bien, moi, j'ai choisi de faire ça. Puisqu'il est accusé, il dit, ben, puisque c'est pour un bienfait. On peut rebondir là-dessus. On peut se dire, c'est marrant comme les gens ont du mal à discerner qu'il faut beaucoup de caractère et il faut beaucoup d'amour pour se préserver. Je me demande, moi, mon conjoint, mon futur conjoint, que je le connaisse déjà ou pas, je me demande qu'est-ce qu'il penserait si j'avais déjà dilapidé tout ce que Dieu m'a donné. Ou si, au contraire, il se rend compte que j'ai tout gardé pour lui ou pour elle, selon qui on est. Est-ce que ça ne va pas tout à coup remettre les personnes en face d'elles-mêmes en se disant « Oh là, il y a peut-être un truc que je n'ai pas pigé. » L'esprit du monde nous pousse tellement à faire des choses où on ne se rend même plus compte. Notre manière de nous habiller, par exemple. Je pense surtout aux femmes. Comment est-ce qu'on fait pour honorer Dieu dans notre façon de s'habiller, même si dans le monde, on nous montre comment est-ce qu'il faudrait s'habiller. Des fois, on ne voit même plus, même les chrétiens, des fois, on ne voit même plus ce qui est de l'ordre, même de l'impudicité, on ne se rend même plus compte. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir un décolleté jusqu'au nombril, ce n'est pas ça. Il y a des choses, on n'a même plus le discernement de ce qu'on fait. Mais si, par contre, on fait attention, si on a le choix de ne pas suivre la mode, de ne pas suivre ce que le monde nous demande, ben peut-être qu'on va nous demander des comptes. Oh, mais toi, t'es pas à la mode. Et alors? Et si moi, j'ai choisi d'honorer les personnes qui peuvent poser le regard sur moi, et si moi, j'ai choisi de ne pas mettre quelqu'un dans une mauvaise situation, et si moi, j'ai choisi de... Est-ce que c'est pas une preuve d'amour? Une preuve de respect? Il y a plusieurs manières de présenter une défense. Mais on peut le faire d'une manière à ce que ce ne soit pas accusateur contre la personne. Tout est dans la formulation. Et le Saint-Esprit nous prépare aussi pour ces choses-là. Qu'est-ce que je défends? Est-ce que je défends ma propre vie? Est-ce que je défends ma réputation? Est-ce que je défends mon amour pour le Seigneur, l'amour du Seigneur pour moi, le Seigneur et l'Évangile? Alors Pierre, il a présenté sa défense et il conclut en disant « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Quand on lit ça comme ça, on ne se rend pas compte. Mais ce terme « sauvé », c'est le même que « guéri ». Il y a un boiteux qui a été guéri et on l'a vu la dernière fois. Il a aussi été restauré spirituellement parce que puisqu'il n'était plus infirme, il a pu entrer dans le temple, il a pu avoir sa relation restaurée avec le Seigneur. En fait, cet homme a été sauvé. Le terme en grec, on l'entend souvent, c'est « sozo ». C'est devenu même le nom d'un parcours de prière pour être guéri, pour être sauvé. Là, Pierre, tout à coup, pour la première fois dans le Nouveau Testament, il utilise un terme qui deviendra une doctrine chrétienne, la doctrine théologique du salut. Sauvé. On a besoin d'être sauvé. Guéri, sauvé. Voilà comment est-ce qu'il termine sa défense. Il n'y a aucun autre nom qui puisse nous guérir ou nous sauver. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé, prouvé, a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de l'obscurantisme? Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise persévérance, un entêtement? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ces pauvres hommes sont perdus parce qu'ils ne veulent pas se laisser toucher. Et pourtant, ils reconnaissent, ils ont tout sous leurs yeux. C'est comme quand on a la parole, mais on n'arrive pas à la recevoir, on n'arrive pas à l'appliquer à notre propre vie. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Montre-moi. Saint-Esprit, donne-moi tes révélations. Qu'est-ce qui bloque? Alors Pierre continue. On croyait qu'il avait fini sa défense. Mais qu'est-ce qu'il répond? Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Utilisez cet argument dans votre défense, que ce soit pour l'ennemi de votre âme ou quand on vous demande des comptes. Qui est ton autorité? À qui est-ce que tu choisis d'obéir? Et si les autorités ont dit « Nous ne pouvons pas le nier », il y a une double négation. Nous ne pouvons pas ne pas. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître. Eh bien, Pierre y fait pareil. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il rebondit sur ce qu'ils ont dit. Vous ne pouvez pas nier. Eh bien, moi, je ne peux pas ne pas parler. Je ne peux pas parler de ce qui me remplit. Je ne peux pas parler de ce qui déborde de moi. Je ne peux pas ne pas parler de tout ce qui me nourrit. Je ne peux pas ne pas parler de celui qui a changé ma vie. Parce que je sais que je ne peux pas le nier. J'ai vu ma vie transformée. J'ai vu comment j'étais avant de rencontrer le Seigneur. J'ai vu comment je suis après. J'ai vu ce que le Seigneur a fait dans la vie de l'un et de l'autre. J'ai vu ce que ça fait quand j'ai reçu le parler en langue. Je ne peux pas ne pas parler de ce qui me remplit. Je ne peux pas ne pas parler de ce que Jésus a fait. Je ne peux pas ne pas parler de Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, ressuscité et qui revient. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ça veut dire cette situation, en fait, à 40 ans, elle était désespérée. Et tout le monde a vu. Tout le monde a vu la puissance de Jésus qui s'est manifestée. Les apôtres ont été relâchés. Ils sont retournés vers les leurs. Et ils se sont mis à prier. Ils ont raconté ce qui leur est arrivé. J'ai pas le temps de vous prendre la prière maintenant pour aller expliquer cette prière, mais moi je vous encourage, retournez à ces textes et allez voir comment ce qu'ils ont prié, allez décoder comment ce qu'ils ont construit leur prière devant Dieu. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne demandent pas la protection. Comme Pierre et Jean n'ont pas demandé au Seigneur, aide-nous. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais c'est pas écrit. Là, dans leur prière, ils ne demandent pas la protection. Ils demandent l'assurance de continuer à prêcher la parole de Dieu, alors qu'ils savent que peut-être ils vont perdre leur vie. Et on sait que c'est ce qui est arrivé pour la plupart d'entre eux. Alors je vous encourage à reprendre ce texte. Et si vous êtes dans la lecture des Actes, allez voir tous ces discours. Regardez à qui ils sont adressés, quelles sont les circonstances et comment Pierre ou à un moment donné Étienne, comment Paul construisent leur discours ou comment les prières sont construites. Quels sont les arguments? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour votre propre vie? Quand ces choses se sont passées, Pierre, il ne savait pas ce qui allait arriver. La Pentecôte est arrivée, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils sont allés au temple, et voilà tout ce qui s'est passé. Ils ne pouvaient pas le deviner. Mais ensuite, ils ont continué. Et à la fin de sa vie, Pierre a écrit des lettres. Et dans la première lettre de Pierre, le chapitre 3, Pierre a beaucoup évolué dans sa foi. Il a compris beaucoup de choses. Au fur et à mesure de son apostolat, il a mieux compris aussi qui était Jésus. Au début, il comprenait que c'était un homme, l'homme que Dieu avait choisi, qui était le Messie, qui avait été crucifié, ressuscité. Jusqu'à ce que, après, il comprenne, mais c'était Dieu de toute éternité. C'était Dieu préexistant qui a pris le corps d'un homme. Ça, c'est des choses qu'il n'a pas compris tout de suite. Mais il a énormément mûri à force de vivre dans la foi, d'être toujours versé dans les Écritures, d'être rempli du Saint-Esprit. Et il est aussi allé de persécution en persécution. Le fait de s'être fait jeter en prison une première fois, c'était le début d'une longue série. Une longue série qui ne s'est pas terminée aujourd'hui, qui continue et qui continuera jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a des chrétiens emprisonnés pour leur foi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens tués pour leur foi. Aujourd'hui, nous sommes pris à partie souvent pour notre foi. Ça va être toujours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais voilà ce qu'il dit dans 1 Pierre 3. Je vous lis à partir du verset 14. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Soyez toujours prêts à vous défendre. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'il y a tout dans ta parole. Merci Jésus parce que tu as une parole pour chacune de nos circonstances. Tu as une parole pour chacun de nos états d'âme. Tu as une parole de réconfort, tu as une parole de puissance, tu as une parole de sagesse, tu as une parole de guérison pour chacune de nos circonstances. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit, ton Saint-Esprit, qui crie en nous Abba Père, ton esprit qui nous révèle ta majesté, ta grandeur, ta vie, ton esprit qui nous rappelle que tu es là, ici et maintenant, ton esprit qui nous remplit de ta présence, ton esprit qui renouvelle notre intelligence, ton esprit qui nous aide à être toujours prêts, ton esprit qui nous aide à présenter notre défense, la défense de notre espérance qui est en toi. Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné. Nous avons tout en toi, rien ne manque. Je te demande par ton Saint-Esprit de nous rappeler ta parole. Je te demande de nous donner cette faim et cette soif de la connaître toujours mieux. Donne-nous le vouloir et le faire de persévérer dans ta parole. Que nous soyons toujours prêts. Que nos pensées soient toujours soumises à ta parole, restaurées par ta parole, vivifiées par ta parole. Que nous puissions être debout, solidement debout, solides sur le roc, grâce à ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie. Parce que ta parole, c'est la vérité. Parce que ta parole, c'est la justice. Seigneur, merci. Merci pour ceux qui nous ont précédés. Merci pour la sagesse, pour la persévérance, pour le don de leur vie que tu leur as donné. Merci de les avoir fortifiés. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.